France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, nous sommes avec Jérémy Ferrari, une des superstars de l'humour français. Il est né dans les Ardennes, il a quitté l'école tôt, il a commencé par jouer dans des salles minuscules avant de remplir des Zénith et des Bercy. Révélé au grand public dans On ne demande qu'à en rire, à l'époque, il est devenu en quelques années l'un des humoristes les plus puissants de sa génération. Sur scène, il a parlé de religion, de guerre, de terrorisme, d'ONG, de médecine, d'alcoolisme, de politique. À la télé, il a même tenu tête à un Premier ministre en direct. Quelle séquence! Et aujourd'hui, il passe derrière la caméra, son premier long métrage, Les Cadors, sort le 11 mars, une comédie d'action tournée dans le désert avec une chasse au trésor, un fils supposé de Kadhafi, un trio improbable de l'absurde, de la satire et un chien à trois pattes. Bref, un film d'aventure à la française, ambitieux et spectaculaire, entre deux dates de la tournée triomphale du trio avec Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplain et l'écriture de son prochain spectacle solo, il trouve encore le temps de réaliser un film et de jouer le rôle principal dedans. Jérémy Ferrari est avec nous à La Régulière.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Tu bois une chèvre, je suis choquée carrément comment t'es gaulé, frère, n'importe quoi.
Ah, c'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage?
Bravo, ma puce.
Je veux savoir pourquoi on est dans un hammam.
On est dans un hammam parce que tu es en face de toi. Une professionnelle.
T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier, ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhaf.
Je vais pas te mytho, au tout début, on t'a un tout petit peu carotte. Parce qu'on avait besoin de toi pour passer la frontière avec l'argent.
C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan, merde?
Ça, c'est un meuble, par contre, là.
Ça, c'est la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce des Cadors, donc ton premier film. Jérémy, en tant que réalisateur, comment ça va?
Ah, ça va, bah, c'est très stressant, hein. C'est très très stressant un premier film.
Oh là, c'est vrai?
Qu'est-ce que c'est stressant? Bah oui, parce que tu vois, les spectacles, on a l'habitude, on ouvre les dates un an avant. En plus, moi j'ai de la chance, les gens réservent tôt, donc ouais. Du coup, je pars en tournée 6 mois avant, je suis complet, donc c'est confortable.
Oui.
Là, on fait toute la promo. Alors, il y a quand même toute cette tournée d'avant-première qui est extraordinaire parce que tout est plein et que du coup, là, je commence à me rassurer parce que j'ai 15-20 000 personnes qui ont vu le film, donc je commence à sentir.
T'as des retours.
Voilà, ouais. Je commence à sentir que ça rit fort en salle et que les gens passent un super moment et ça, donc ça me rassure. Mais c'est vrai que, tu sais, en fait, c'est terrible le cinéma parce que, bon, moi déjà, je découvre, donc je regarde autour de moi et tout le monde est très fébrile. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a des succès que t'attends pas, des fois t'attends des succès qui viennent pas, des fois t'attends pas un succès et ça vient, donc tu sens que tout le monde est un peu en train de dire, bon, bah, mais... C'est rigolo la période que je vis parce qu'en même temps, on a des avant-premières qui sont complètes, on a la presse qui est avec nous, on a le public qui est dithyrambique. Donc, on sent que tout le monde a envie de dire bon, bah, ça devrait aller, mais tout le monde dit quand même mais bon, c'est le cinéma, on ne sait pas. Donc,
Est-ce que c'est aussi plaisant quelque part de te mettre en danger par rapport à une situation dans l'humour où ça se passe bien, comme tu le dis, tu remplis des salles, etc. Je pense que les gens autour de toi sont assez confiants quand tu annonces un spectacle, même si on sait jamais ce qui peut se passer.
Mais il n'y a que eux, hein, moi je suis pas confiant. Hein,
mais... Peut-être que toi, tu n'es pas confiant, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, on imagine que ça se passe bien et qu'il n'y a peut-être pas tant de stress, en tout cas, autour d'un projet, d'un spectacle de Jérémy Ferrari. Est-ce que là, le fait de se mettre en danger sur un... Parce qu'en plus, tu réalises aussi, donc tu joues la comédie. Est-ce que là, il y a quelque chose aussi de challengeant qui peut être assez excitant aussi et peut-être nouveau?
Mais évidemment. Après, moi, je ne suis pas détendu sur l'One. Hein.
Okay.
Tu sais, là, j'ai vu mes équipes parce qu'ils me voient très, très stressé. Et puis, je leur ai dit. Mais vous savez, si je réussis ça, je pense qu'après, je vais être beaucoup plus apaisé. Ils ont tous éclaté de rire.
Oui. Mais, ils te connaissent.
Le prochain spectacle, tu vas être terrorisé. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas m'empâter, quoi. L'idée d'un film, ce qui est extraordinaire avec le cinéma, c'est que c'est vraiment un nouveau. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau jouet, d'autant que je ne devais pas réaliser le film.
Oui.
C'est Saïd Beltibia qui est le co-auteur du coup du film, qui est le réalisateur, qui est réalisateur et qui m'avait fait tourner juste avant dans un film qui s'appelle Rocky avec Golshifteh Farahani. Donc du coup, moi je me suis retrouvé propulsé en tant que réalisateur, ce qui n'était pas forcément mon ambition, j'ai pris ça extrêmement à cœur. Mais maintenant, je suis complètement happé dans le projet, c'est-à-dire que j'y ai tellement mis d'énergie, d'heures, de sueur, de larmes, de sang, de rire, de joie, de crainte, de tout, parce que c'est ça la réalisation. Il y a un truc que je dis en ce moment en avant-première, quand les gens me posent ce même type de questions. J'ai la chance, depuis 15 ans, au-delà de la scène, de faire plein de choses, d'écrire pour plein d'humoristes, de mettre en scène, d'écrire, de produire, de faire plein de choses. Et il n'y a jamais rien qui a eu la même intensité que le one-man show, d'être tout seul sur scène devant 2, 3, 4, 5, 10, 15 000 personnes. Ouais. La seule chose maintenant que je peux te dire, c'est ça sera toujours le one-man show et la réalisation. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Et en même temps, c'est tellement proche, parce que tout part de toi et tu dois décider de tout et tu dois embarquer les gens dans ton univers et dans ce que tu as dans la tête de manière totalement différente. Mais c'est presque tellement à l'opposé que ça se ressemble. Je sais que la phrase n'est pas très claire, mais sur scène, je suis tout seul, j'ai que mon micro et mon texte. Et au cinéma, on te donne tout. C'est-à-dire que tu veux un lance-flamme, on te donne un lance-flamme. Tu veux une poule, on te donne une poule. Enfin, tu vois. Donc en fait, c'est. Et du coup, ça devient similaire parce que tout est possible sur scène et tout est possible au cinéma. Dans la limite du budget qu'on t'a accordé. Mais enfin, a priori, il a été calculé avant que tu écrives ton scénar, tu vois.
Ouais.
Enfin, au moment où tu as écrit ton scénar. Donc c'est incroyablement stressant, mais c'est tellement grisant. Et je parle même pas de plaisir. Ce que je veux dire, c'est que je peux des fois prendre plus de plaisir, par exemple, sur une tournée avec Baptiste et Arnaud, mes deux copains, parce que j'ai moins de pression, parce que je suis avec mes potes, et c'est du rire du matin au petit-déj jusqu'au soir sur scène. Mais la satisfaction qu'on peut ressentir en étant tout seul sur scène, ou la satisfaction qu'on peut ressentir là en réalisant un film, elle est à la hauteur des angoisses que ça t'a généré avant. Donc ce monde est comme ça, c'est plus tu dérouilles, plus tu profites après, quoi.
Et alors, parce qu'effectivement, il y a... finalement, quand on regarde ta carrière, t'as pas tant joué au cinéma que ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des humoristes...
Non, pas du tout.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des humoristes qui ont fait beaucoup d'allers-retours, je sais, parce que vous êtes comédien et que ça aurait pu être logique,
c'est,
finalement.
C'est mon deuxième film.
Exactement. Donc, tu te facilites pas la vie, effectivement, déjà en jouant un premier rôle, c'est toujours, j'imagine, une source de stress, avec un film qu'on imagine, j'ai pas le budget, mais en tout cas avec des attentes. Forcément, c'est une comédie d'action avec un casting attrayant, et tu le réalises. Donc... comme on a l'impression, j'ai l'impression de voir que t'es un garçon qui peut être aussi angoissé. Un projet comme ça, est-ce que t'as hésité avant de le mener dans toute cette dimension-là ? Parce qu'en fait, t'aurais pu y aller aussi à tâtons, en fait, et te dire, bon, je vais peut-être pas y aller comme ça.
Au départ, j'étais que auteur sur le film,
ouais.
Et comédien principal. Enfin, comédien principal, c'est une comédie chorale, donc on partage l'affiche avec...
C'est un trio, on va en parler, bien sûr.
Avec Eric et Laura. Mais...
Un petit chat dans la gorge.
Vous avez du montage.
Oui, bien sûr. Eric Judor et Laura Falcon.
J'ai vraiment craché ma gorge comme si vous aviez du montage. Non, mais donc c'est un film choral. Mais au départ, je devais être que auteur. Donc la fabrication du film m'importait peu. Moi, j'étais que auteur. Ouais. Après, c'était au réal et au prod de se débrouiller. Donc moi, ça m'importait pas du tout. Quand il a fallu le fabriquer, j'ai pris ça avec une immense responsabilité. C'est-à-dire que je me suis dit, du coup, ça devient un film de et non plus un film avec. Et ça change tout. Parce que là, c'est mon public à qui je promets quelque chose. Et ces promesses-là, j'essaie de les tenir depuis 15 ans. Dans tout ce que je fais, parce que j'ai un public très fidèle qui me suit, même si là j'espère l'élargir et avoir aussi des gens qui me connaissent pas ou qui me connaissent moins, qui viendront voir le film. Je pense qu'en plus le film s'y prête. Je dis toujours, si tu connais pas l'univers de Ferrari, c'est un bon premier pas, tu vois, c'est le pédiluve, parce qu'il y a un peu tous les thèmes que j'ai traités. Et donc, j'ai pris ça extrêmement au sérieux. Donc, j'ai commencé par appeler tous des potes réals en ayant très peur, en disant, est-ce que tu crois que je suis capable, comment c'est, nanana. Et puis, après, j'ai lu des bouquins. Ensuite, je me suis quand même rappelé qu'il y avait plein de gens qui faisaient leur premier film et que si j'étais bien accompagné, je pouvais y arriver. Mais j'ai pris ça avec beaucoup d'humilité. Tu vois, j'ai parlé avec tous les postes, tous les chefs de poste, comprendre ce qui. Tu vois, je leur ai demandé quels étaient les films qu'ils avaient préféré tourner, pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendaient d'un réal, pourquoi. J'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à la prépa. J'ai fait le découpage avec les équipes techniques. J'ai appris ce que c'était qu'un découpage. Enfin, j'ai été très scolaire et très assidu. Tu vois, pour arriver avec vraiment une base de connaissances et de l'humilité. Et après, c'est vrai que ce qui est magique, c'est que quand t'as une très 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 bonne équipe, tu leur expliques ce que tu as dans la tête. On y arrive quand même, tu vois.
Est-ce que ce travail-là que tu as fait de manière... travail scolaire, finalement, est-ce que tu l'avais fait aussi dans l'humour quand tu commences au début? Est-ce que tu avais aussi passé des heures, voire des années à emmagasiner du contenu de spectacle, ou pas du tout, c'était quelque chose peut-être de plus instinctif?
Non, j'ai vraiment fait ça. J'ai lu et regardé tout ce qui pouvait m'apprendre quelque chose. Et après, une fois que j'ai été... professionnel ou prêt, entre guillemets, j'ai arrêté de travailler ça, mais je me suis remis quand même dans l'exercice similaire en prenant des spectacles à thème que j'étudiais pendant 2 ans. Donc en fait, j'ai fait un stage sur la religion, j'ai étudié la religion pendant 2 ans, j'ai fait un stage sur la géopolitique, je suis retourné à la fac étudier la géopolitique. Tu vois, donc en fait, finalement, je remets ce process en route. Mais parce que je pense que je suis un laborieux et je pense que j'ai cette culture-là de il faut mériter ton succès et donc il faut beaucoup souffrir. Je sais pas si la totalité des heures de que je passe à travailler est nécessaire pour obtenir le résultat que j'ai. Et parfois, je me dis, je pense que vraiment la moitié de ça, c'était suffisant. Mais bon, ça me permet aussi d'avoir confiance en moi quand je le fais.
Ouais. Quand tu dis qu'il faut mériter ton succès, est-ce que ça veut dire qu'il y a des... Parce que, et c'est pas exagéré que dire ça, tu rencontres un grand succès en tant qu'humoriste sur scène. Est-ce que tu as eu l'impression parfois de ne pas le mériter, ou tu sais, parfois il peut y avoir ce fameux syndrome de l'imposteur, etc., dont on a beaucoup parlé. Est-ce que des fois tu t'es dit, bon, pourquoi moi, ça va vite, ça va très fort, des si grandes salles, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là et que du coup tu compenses en voulant être le plus irréprochable et le plus près possible?
Mais totalement, ouais. J'ai une culpabilité. Déjà, je n'arrive pas à ressentir ça. C'est-à-dire que la vision que j'ai de moi est très différente de la vision qu'ont les autres de moi. Et d'ailleurs, souvent, quand ils me connaissent, ils sont très étonnés, parce que je pense que quand on me voit passer dans un couloir, je pense que j'ai un physique assez froid, et puis peut-être je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc je dois paraître un peu fermé. Et puis souvent, quand les gens me parlent, ils se disent « Ah, mais t'es super sympa, en fait !» Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Oui, déjà le salaire, tu vois, moi je viens d'une famille extrêmement modeste, ce que tu gagnes en tant qu'humoriste quand ça commence à marcher très fort, et en plus moi ça a été d'un coup, tu vois, c'est-à-dire que j'avais rien et tout d'un coup j'avais la télévision et des salles de 2000 places, donc moi j'ai un peu, l'argent qui commence à rentrer, je l'ai pas
ça toujours... Ça a été progressif,
non,
en fait.
Et puis je l'ai pas toujours bien vécu, tu vois, j'avais un truc de culpabilité, de dire mais mon père il est agent de sécurité, il gagne ça, il reste 14 heures debout dans un Auchan et moi je vais gagner ce qu'il gagne en ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois ce qu'il gagne en une heure. Enfin, tu vois, il y avait quand même un truc de c'est pas normal. C'est aussi mais tu sais, c'est Laurent Ruquier qui m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que je lui ai posé la question, parce que lui aussi vient d'une famille très modeste et je lui ai dit comment tu gères ça, et il m'a dit déjà faut pas avoir honte, tu gagnes de l'argent honnêtement en faisant plaisir aux gens, et c'est on a la chance de faire un métier qui marche une fois sur 1000, mais quand il marche, ou sur 20 000, ou sur 1 million, mais quand ça marche, c'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais c'est pas de l'argent que tu voles, et puis il faut en faire des choses bien, et c'est vrai que très vite je me suis mis à produire, donc il y a une bonne partie de mon argent que j'ai réinvesti sur mes sociétés pour produire des artistes. Moi, je fais tout en fonds privés. On n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention, tu vois. Donc, on a monté plein de projets, on fait travailler des gens. Maintenant, on a beaucoup d'employés, on a beaucoup de boîtes. Donc, je me dis, j'en ai pas rien fait de cet argent, tu vois. Moi, j'achète pas de montres, j'achète pas d'avion cambrioleur. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à voler chez moi.
Jérémy Ferrari.
Non, mais c'est vrai, il n'y a rien. Je ne suis pas bling-bling. Je peux pas avoir le prix d'une maison au poignet, ça me rend malade, en fait. Je me dis, je me sentirais mal à l'aise. C'est pas moi. Donc, c'est pas mon éducation, c'est pas ma culture. Donc, du coup, j'essaye de produire, de faire plein de choses. Puis, je pense, j'ai un peu une âme d'entrepreneur. Donc, ça m'aide à me dire, je fais des choses bien. Et puis ça m'a permis aussi d'aider mes proches, j'ai pu acheter une maison à mes parents, donc bon, tu vois, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on va pas se mentir quand même, moi qui ai connu vraiment...
Des moments compliqués,
hein, où vraiment tu sais limite pas à manger, tu sais pas payer ton loyer, tu sais pas allumer le chauffage, je vais pas mentir quand même, le fait d'avoir de l'argent, bah quand même, ça améliore le quotidien quand même, tu vois. Il y a que des gens qui ont toujours eu de l'argent qui vont te dire l'argent c'est pas important, tu vois.
Je propose qu'on écoute un morceau qu'on entend dans le film, Les Cadors, c'est un morceau de Isadora.
Extraordinaire.
Tinder Date, je t'avoue que je ne connaissais pas.
Extraordinaire.
Ce morceau, ni cet artiste, donc on l'écoute.
Avec grand plaisir.
Ça. Isadora Tinder Date, qu'on entend donc dans le film Les Cadors, réalisé par Jérémy Ferrari, et avec Jérémy Ferrari, qui sortira le 11 mars prochain. So, I was walking downtown and this guy saw me. I think we've already met somewhere, but where, when, how, forgot. He walked into me and said, hello. I'm not gonna lie, he was kinda cute, but you know me, I ain't trusting these guys, so I just passed by, but he wrote me a letter and say, all the way, I'm all the way, I need you, baby, walk away, it seems like I knocked you, replay, gonna stay, don't wanna play, I need you, baby, I do, I've waited for you all night long, to call me, I do. C'était le morceau Tinder Date de la chanteuse Isadora, qu'on entend donc ce morceau dans le film Les Cadors qui sortira le 11 mars.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Alors le 11 mars, c'est un film réalisé par Jérémy Ferrari et avec Jérémy Ferrari, mais il n'y a pas que toi dans ce film.
Non.
Il y a un, on l'a dit un petit peu, on l'a évoqué, un casting assez spectaculaire, parce qu'il y a notamment Éric Judor qui joue le personnage de Ryan, qui, comme à son habitude, est très drôle. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'avoir Éric? Est-ce que tu as peut-être aussi été peut-être élevé quelque part aussi avec Éric Hermzy à l'époque? Enfin, dans quelle mesure, et peut-être que vous connaissiez bien, enfin, est-ce que c'était important pour toi qu'il soit sur ce film, dans ce rôle?
En fait, je peux te raconter l'histoire que je trouve assez intéressante, parce que en réalité, voilà comment c'est passé. J'avais un premier scénario il y a quelques années dans lequel il y avait trois personnages principaux qui étaient trois hommes, dont Guillaume Batz.
Oui.
On commence le financement, Guillaume Batz meurt, donc il m'aura vraiment cassé les couilles jusqu'au bout, Guillaume Batz. Et donc, bon, bah, s'en suit une période évidemment de deuil, et un truc où je suis pas.
Guillaume Batz, qui était un humoriste, qui était un ami à toi.
Qui était un ami à moi, que je produisais, qui était comme un petit frère pour moi, qui était atteint de la maladie des os de verre et qui est décédé. Et donc, du coup, je décide, je peux pas réécrire un rôle, je peux pas mettre les mots de Guillaume que j'avais écrit pour Guillaume dans la bouche d'un autre comédien, puis émotionnellement, c'est trop compliqué pour moi. Donc, je refonds les deux personnages, je garde juste le mien, je garde l'histoire. Et un des producteurs me dit, peut-être tu pourrais mettre une femme au casting, du coup, peut-être ça va t'aider à t'éloigner de ce que tu avais écrit. Je dis, ouais, bonne idée. Et moi, j'adore écrire pour les autres. Et j'avais écrit un sketch avec Laura Felpin, qui s'appelle Le Confessionnal, qu'on avait fait dans mon émission Les Dieux Impossibles, et puis j'avais vu sur scène et tout. Et donc, je commence à m'inspirer d'un de ces personnages pour écrire Zulika.
Oui, ça part d'un de ces personnages.
Ces personnages. Mais je ne lui dis pas. C'est-à-dire que j'écris le rôle en m'inspirant d'elle, en pensant à elle, sans lui dire.
Okay.
Je prends quand même un petit risque. Et j'écris le personnage de Ryan sans penser à personne au départ, juste en contre par rapport à Zulika. Et j'appelle Laura Felpin, je lui dis, j'espère que tu vas aimer le rôle parce que je l'ai écrit pour toi et je vois pas à qui je vais proposer ce rôle. Elle lit, elle me dit, écoute, je pleure de rire dans le train, j'accepte le rôle. Et là, on se met à la recherche de l'acteur qui pourrait interpréter Ryan. On discute, il y a plein de noms qui viennent comme ça, puis il n'y a rien qui me tilte, puis à un moment donné, Éric Judor, je dis, mais comment j'ai pas pensé à ça avant? Donc Éric, non, je le connaissais pas. Je l'admire beaucoup. C'est un mec, j'ai tout vu d'Éric Judor et de Ramzy, soit lui tout seul, soit les deux.
Ouais.
Et je me dis, extraordinaire. J'appelle Éric. Alors déjà, j'appelle Éric, je le connais pas. Il entend mon chien aboyer derrière, je sais pas quoi. Il me fait une heure de vanne au téléphone. Il sait même pas pourquoi je l'appelle.
C'est vraiment Éric Judor tel qu'on l'imagine.
C'est le même. Hein. Okay. Vraiment, c'est pas une façon de parler. Quand je dis une heure, c'est pas 37 minutes, c'est une heure. Et au bout d'un moment, donc je lui dis, bon, j'ai un pitch un peu zinzin. C'est un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi qui part rechercher une journaliste dans un camp de djihadistes avec une fichée S, un malvoyant. Il me dit, mais c'est extraordinaire. Il y a que lui qui pouvait me répondre ça. Et il me dit, mais bon, j'ai peut-être un tournage au même moment, c'est quoi les dates? Je lui dis, il me dit, ah, j'ai un tournage à ce moment-là, mais envoie-moi quand même le scénar, je suis curieux de lire. Le lendemain, il me rappelle, il me dit, j'ai lu 20 pages, si tout est comme ça, je décale mon tournage et je fais le film. Le lendemain, il ne me rappelle pas. Donc je me dis, bon, ben, a priori, la 21e page a été très déceptive. Et finalement, on s'est au téléphone, puis il me dit, écoute, je trouve que le scénar est vraiment génial, il me fait plein de compliments sur le film, et il me dit, je trouve que le personnage de Ryan, il s'éteint un peu au fur et à mesure du scénario. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, mais il me dit, bon, réécris pas pour moi, ça sert à rien, de toute façon, j'ai mon tournage, mais je sens que peut-être je peux arriver à le convaincre. Donc je raccroche, je relis le scénar, et je me dis, il a raison. Mais parce que j'écrivais pour personne, je pense.
Oui.
Donc je me refais Platane, H, Problémo, enfin, je me refais tout ce que je trouve d'Éric Judor pour me remettre sa mélodie dans la tête. Le lendemain je retourne au bureau, je réécris tout le rôle, je suis hyper inspiré parce que c'était vraiment un rôle pour lui, donc j'avais plus qu'à habiller.
Et le fait d'avoir eu son retour, j'imagine que ça te galvanise aussi.
Il y a un truc, je me dis putain, je suis à deux doigts d'avoir Éric Judor et donc d'avoir un casting exceptionnel. Le soir, je lui envoie le nouveau scénar, je l'appelle, je lui dis ouvre tes mails, il ouvre, il voit qu'il y a genre 25 ou 30 pages de plus, donc il éclate de rire, il me dit ah bon, on m'avait dit que t'étais zinzin, mais t'es vraiment zinzin, t'as réécrit 30 pages con, c'est eu hier, je dis bah aujourd'hui, j'arrête chez toi écrit aujourd'hui, il me sentait hyper. Et puis il me dit bon bah j'accepte, je dis mais t'as pas lu, bah il me dit si t'as réécrit un scénario en une journée, si le rôle me plaît pas, tu le réécriras dans l'avion. c'est comme ça qu'Eric s'est retrouvé sur le tournage.
Alors il y a aussi quelqu'un d'autre qui a un plus petit rôle, mais je t'en parle en antenne, je le trouve exceptionnel, et je trouve qu'on le voit. Peut-être pas assez en tout cas dans des comédies comme ça, des comédies populaires comme ça, c'est Fred Testo.
Mais extraordinaire.
Qui joue le personnage de Barberousse et qui est vraiment la scène, une scène d'interrogatoire qui est extraordinaire. Là aussi, vraiment, je trouve qu'elle est particulièrement drôle cette scène. Est-ce que toi, tu le savais que c'était pour lui aussi? Est-ce que tu l'as écrit pour, en l'ayant en tête? Ok.
J'ai écrit les personnages, je les joue dans mon bureau quand je les écris. Je les joue avec l'intonation. Alors, je les joue pas aussi bien que le comédien à qui je vais le donner,
Après, t'es comédien toi-même, mais tu.
Oui, mais du coup, tu vois, j'ai la mélodie du personnage dans la tête. Puis je commençais à faire donc Barbarousse, pour les gens qui nous écoutent, c'est un personnage qui arrive dans le dernier tiers du film, qui est, on va dire, un chef djihadiste en burn-out, quoi, qui supporte plus le désert, qui supporte plus le sable.
C'est ça.
Qui supporte plus son métier. Et on sent que c'est un mec qui a dû être haut placé dans les sphères et puis qui s'est retrouvé là avec un camp avec beaucoup de débiles. Et il les supporte plus, il supporte plus son taf, il supporte plus rien. Et c'est vrai qu'on s'y attend pas.
Il y a presque un spin-off à faire sur Barbarousse.
Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Puis alors, moi, ça m'éclaterait d'écrire un spin-off sur un djihadiste en burn-out, ça me ferait beaucoup rire. Et donc, quand je commence à écrire le personnage, c'est vrai que je commence à jouer un peu comme ça. Oh là là, ce désert, les cailloux, toujours des cailloux. Je commence à faire un peu Et je dis, mais il y a quelqu'un qui parle comme ça. Et je sais, tu sais, ça me revient pas tout de suite. Et au bout d'un moment, je fais, putain, c'est Testo. Et Fred, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je l'appelle, je dis, ça dit de jouer à un djihadiste en burn-out. Il éclate de rire. Il me fait, allez, d'accord. Et je lui ai envoyé le texte et tout. Il me dit, mec, c'est trop drôle, c'est génial, vas-y, on le fait. Et voilà.
C'était évidemment un rôle pour lui. Jérémy Ferrari est avec nous jusqu'à 23h. Alors, effectivement, on l'a rapidement dit, mais il y a aussi quelque chose dans le film, c'est on ne sait pas si ton personnage est le fils ou pas de Kadhafi. Il y a quand même tout ce mystère-là. Pourquoi tu as voulu donner un peu cette backstory,
cette vibes
à ce personnage, ouais.
Parce que, en fait, moi, j'aime bien les histoires vraies. Et j'aime bien les histoires épiques. Je trouve que quand on va au cinéma, après, c'est mon avis, hein, mais moi, ça me déprime quand c'est trop terre-à-terre. J'aime bien... En fait, je suis assez paradoxal. C'est-à-dire que j'aime les histoires épiques, mais j'aime bien les histoires vraies. Donc, évidemment, ce que je préfère, c'est une histoire épique qui aurait pu être vraie ou qui est vraie. Et je ne trouvais pas d'histoire vraie adaptée. Et avec les co-auteurs, on a commencé à discuter. Puis je ne sais pas pourquoi on s'est mis à parler de Kadhafi. Je pense qu'il devait être dans l'actu avec notre ami Nicolas Sarkozy, certainement, encore une fois. Il devait déjà être en train de dire « Non, c'est pas moi, je suis innocent, je ne sais pas ». Et donc, on se met à parler de Kadhafi. Puis moi, j'avais écrit un spectacle sur la géopolitique où j'avais déjà traité un peu ces thèmes. Donc, c'est des thèmes que j'aime bien parce qu'ils sont noirs et qu'il y a plein de... C'est des thèmes qui ne nous concernent pas et en même temps qui nous concernent indirectement. Enfin, j'aime bien ces thèmes-là. Et donc, je me suis dit, bah, attends, mais Kadhafi, dans les années 80-90, il a pu avoir une aventure, vu qu'il était beaucoup en France. Il faut se rappeler quand même, il faut recontextualiser. À ce moment, il a été reçu comme un chef d'État, totalement fréquentable, tout allait bien. Plantait sa tente dans les jardins de l'Élysée.
Absolument.
Donc, on imagine qu'à ce moment-là, il a dû avoir des aventures, puisque c'était quelqu'un quand même que tu es connu pour avoir un petit problème de gestion de son rapport aux femmes. C'était pas son seul problème, il avait aussi celui-là. Bon, on sait que c'était un homme à femme. Donc, on imagine une aventure, ce qui est totalement plausible. Donc, il a pu avoir un enfant de cette aventure. Et quand on regarde sa vie, en 2011, quand il meurt, Kadhafi, on ne retrouve pas l'argent. Il est considéré comme l'homme le plus riche du monde, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'or, il n'y a pas les dollars. Et il manque aussi des reliques, des objets, etc. Donc la légende dit qu'il aurait, quelques mois avant, senti le vent tourner, qu'il aurait tout planqué. Ce qui fait qu'en 2026, il y a encore des mecs, des chasseurs des trésors modernes.
Ça existe, ça, vraiment.
Qui cherchent l'argent de Kadhafi. Donc je me dis, mais attends, s'il y a un gamin qui est né dans les années 80-90, en 2011, il a l'âge de devenir l'un de ces chasseurs de trésors, ça serait génial de voir ce qu'il est devenu 10 ans après. Et ça me permet d'avoir une histoire plausible, un truc qui aurait pu être vrai, et qui l'est peut-être, on ne sait pas, d'un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi et qui cherche l'argent de son père. Et ça me permet d'avoir un mec un peu malade, mais un peu militaire, tu vois, et d'utiliser cette mécanique humoristique qui est si efficace, c'est-à-dire un mec qui rigole pas, qui a un objectif, qui vit un drame, et qui doit s'entourer de deux planches pourries, parce qu'il n'a pas le choix que d'aller avec eux pour récupérer son truc, quoi.
Et justement, aussi, je trouve que le côté... chasse au trésor, c'est aussi finalement un marronnier des films d'aventure. C'est aussi ça. Les Cadors, c'est une comédie, mais il y a aussi un côté film d'aventure. Est-ce que tu avais des références? Est-ce que tu as grandi avec ça, avec des films d'aventure plus petits ou pas spécialement?
Je pense que j'ai vraiment tout regardé. J'ai regardé tout ce qui était... je sais pas, moi j'aimais beaucoup les films d'action. Après, tu vois, on a tous grandi avec les Indiana Jones, Crocodile Dundee,
absolument.
Les armes fatales.
Est-ce que tu te souviens, dans les films Indiana Jones, il y avait Alan Quaterman aussi?
Ah non, je vois pas.
C'est avec Richard Chamberlain. Je crois que c'était adapté d'un roman, mais ça c'était un peu les Indiana Jones du pauvre, entre guillemets. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers rôles de Sharon Stone.
Ah, peut-être j'ai vu. Parce que moi,
ça passait à la télé avant.
Moi, je suis très mauvais pour retenir le nom des réals, le nom des acteurs. C'est une catastrophe. Mon cerveau les élimine immédiatement. D'ailleurs, c'est l'histoire de ma vie. T'as un film à me conseiller? Ouais, on me donne le nom du film. Je regarde 10 minutes, j'ai déjà vu. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie, quoi.
Ok. Mais donc, en tout cas, t'as été un peu biberonné à ces films-là.
Tous ces films-là. Et puis, moi, j'ai une culture populaire, tu vois. Donc, on regardait tous les gros blockbusters, tous les gros trucs qui marchaient. Tu vois, ça, Jurassic Park, Titanic. Tu vois,
c'est un.
j'étais nourri à la culture populaire. Tous les gros trucs qui marchaient, je regardais, tu vois. Après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu la chance de faire les cours Florent et j'ai croisé des gens qui venaient de familles un peu plus aisées, donc avec des références un peu plus pointues sur certaines choses. Mmh. Et donc là, j'ai découvert les frères Cohen. Tu vois, j'ai découvert The Big Lebowski, c'est devenu ma passion. J'ai découvert Guy Ritchie, des films un peu plus pointus. Enfin, pointus, je sais pas si on peut dire pointus.
Oui, en tout cas, pas des choses avec lesquelles tu avais grandi.
Voilà,
toi,
pas des choses en tout cas avec lesquelles j'avais grandi, exactement. Donc voilà, mais moi j'adore, tu vois, mon film préféré c'est Le Grand Bleu parce que c'est le film que je regardais quand j'étais petit, Léon, tu vois, donc je fais plutôt des grands écarts, tu vois, sur ce que je vais regarder, quoi. Le dernier film qui m'a vachement touché c'est Splatch, tu ouais. vois, que j'ai trouvé incroyable, donc tu vois, je passe vraiment d'un truc à l'autre, mais la musique c'est pareil, tu vois, je peux passer de Brassens à Chinese Man dans la même journée, quoi, donc...
Vu qu'on parlait de Kadhafi un petit peu juste avant et qu'il a un rôle plus ou moins dans le film, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que quand on parle de toi, de tes spectacles, on peut en tout cas, je sais pas si t'es un humoriste engagé, je sais pas si tu te définis comme ça, mais en tout cas, t'es un humoriste qui parle de l'actualité, qui n'a pas peur de parler de sujets qui parfois peuvent être clivants, ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes. Est-ce que le fait justement d'intégrer une part, plus ou moins de manière éloignée, mais en tout cas de géopolitique dans le film, c'est aussi une manière d'être quelque part cohérent, ou en tout cas en lien avec ce que tu peux faire sur scène, parce que, mine de rien, c'est aussi toi, ça, en fait.
Alors, écoute, tu sais que ce sont les journalistes qui me l'ont fait remarquer. C'est-à-dire que, en fait, une des premières interviews que j'ai faites pour commencer à parler de ce film, il y a un journaliste qui me dit « Mais c'est marrant, vous avez pris tous les thèmes de votre vie. » Je dis « C'est-à-dire ?» Bah, il me dit « Le handicap, les animaux, vous adorez animaux. Vous avez mis de l'action, parce que voilà, on sait que vous êtes un mec qui cherchait l'adrénaline, qui fait des sports de combat, machin, machin. Vous avez mis de la géopolitique, du handicap. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est la nature. Moi, je suis un amoureux de la nature. Je suis allé au fin fond du Sahara pour tourner mon film. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, c'est fou. En fait, j'ai mis toute ma vie dans ce film. Alors, c'était pas voulu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans mes spectacles, je traite les sujets de manière très frontale, très politique, très recherchée, avec des très sourcés, etc. Et là, j'ai l'impression que j'ai traité un peu tous les sujets que j'ai traités dans ma vie, mais de manière humaine. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que, parce que du coup, ça m'a fait réfléchir à ça. Et en fait, en regardant le film, je me dis, c'est marrant, j'ai traité le côté humain de tous ces contextes géopolitiques. Tu vois, dans Vente de pièces à Beyrouth, j'ai fait 2h30 de géopolitique. J'ai jamais parlé de l'humain. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que Noé, par exemple, c'est presque une comment on appelle ça, un dommage collatéral d'un Kadhafi qui se balade partout en Europe en totale impunité. Puis absolument, finalement, on change d'avis. Puis finalement, il est plus fréquentable. Puis finalement, machin. Et puis il meurt. Et puis il était milliardaire. Et puis donc et tu vois. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que là, j'ai pris tous les aspects humains de. Mais tu sais, moi, je suis un amoureux du Père Noël est une ordure. Je trouve que ça, c'est avec le dîner de con parce que les dialogues sont extraordinaires, et le Père Noël est une ordure parce que c'est une comédie sociale.
Ils sont d'ailleurs les deux pièces de théâtre au départ. Hein.
Exactement.
Les deux films ont ce point commun.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est aussi drôle. C'est parce qu'en fait, au théâtre, t'as pas d'artifice. Donc t'es obligé d'aller chercher du texte et de la vanne. Et en réalité, ce qui est génial avec le Père Noël est une ordure, c'est que c'est une comédie sociale. C'est-à-dire que c'est que des gens qui vont mal. Le Père Noël est une ordure, ce n'est que des gens qui vont mal et qui font semblant d'aller bien et qui ont l'air d'avoir un but alors qu'en fait ils n'ont pas de but. En tout cas, ils n'ont aucune idée de comment atteindre le but, ni des circonstances pour l'atteindre. Et donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans le film. Et c'est pareil, dans Le Père Noël est une ordure, par exemple, ils aiment beaucoup les personnages secondaires complètement zinzin. Et tu vois, j'en ai mis partout dans mon film. Tu vois, t'as Virginie qui est une coureuse qui n'a plus de bras. T'as le Belge, l'otage, qui se fait pas. Bon, je vais pas trop spoiler le film, mais bon, t'as trois, quatre.
Il y a une galerie de personnages comme
ça. Des personnages secondaires qui arrivent et qui sont aussi zinzin, voire plus tarés que les personnages de base qu'on suit depuis une demi-heure, une heure ou une heure et demie. Donc je crois que ce que j'aime, c'est prendre des fous, les mélanger. Et toujours en étant ancré dans le réel. C'est-à-dire que je pense que l'absurde n'est jamais aussi drôle que quand il est plausible. Donc je cherche toujours la ligne avec « est-ce que ça, c'est possible ?» C'est très, très, très haut, mais c'est possible. Tu vois, et dès qu'on est dans un truc où c'est plus possible, ça me fait plus rire et je retourne.
Bon, en tout cas, ce sera retrouvé dans les cadors le 11 mars prochain. En attendant, on va continuer à parler du film, mais on va écouter un morceau d'un artiste, un rappeur qu'on a reçu il y a pas longtemps dans l'émission, qui s'appelle Ness, et qui sort un album à la fin du mois lui aussi, qui s'appelle Des pieds et des mains. Et là, on va écouter le morceau Le bruit et le silence, un morceau que j'adore, un morceau qui est en playlist sur France Inter.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track. C'est pas pour rien si y a mon place sur le tract. Regarde-moi bien, je n'ai jamais signé le pacte. Je n'ai fait que viser le top. Je n'ai fait qu'assumer mes failles. Regarde-nous bien, on n'a jamais signé le pacte. Faut mettre bien sa famille, ses amis, les amis de la famille, des amis et j'en passe. Les gens viennent, les gens partent, des boulevards, des impasses. Des civils, des gendarmes, des refrains, des gens lâches. Des refrains, des couplets, des tout larges, des tout maigres.
Je voulais un crew, une équipe. Je voulais palper du liquide. J'étais frêle et intuitif. Quand je pense à la grandeur du risque, quand je pense à la pression du disque, plus le coup dans les veines, je n'ai pas de collal. Si tu n'es pas pour de vrai, je ne fais pas de collab. Et y'a 2-3 rappeurs qu'il faudrait call out. Je vous baise, big up, shout out. Je suis dans le métro, des flashs dans le rétro. Devant j'ai le succès ou les ulcères. Soit je me bouge, soit je moisis. C'est moi qui choisis.
C'est moi.
Je confonds le mercredi et le dimanche. Le bruit et le silence, le lit et le divan. Tu m'achèteras pas avec tes pièces, des billets. Ta morale s'étend à du vide, des miettes. C'est la mienne, douce comme le miel. J'ai rempli, fait grossir l'assiette. Un peu de fame, ils veulent draguer des fillettes. Ils sont sur une ficelle. Ils méritent la civière, la gilette. Normal, je la rafale comme Clint Eastwood. C'est pour ça qu'il y a la tête de Chick qui bouge. Nous, on t'aime pas trop comme un vil si louche. Nous, on fonce dans le tas comme un missile douce. Il a voulu tirer cet imbécile tous. Dommage, il a trahi, on l'appréciait tous. La guerre quête de loin quand la paix s'étouffe. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout.
Les non-dits ont tué nos familles. Les hauts placés ont bafoué nos valeurs. Les frères ont boosté nos batteries. Nos mères ont étanché nos malheurs.
9-4 comme le 113.
9-4 comme le 113, 113 comme le BPM. Invisible sur la map, je suis une sorte de VPN. J'calcule pas trop les stats, rien à foutre du CTR. Ma voix sur la TR, donc remballe ta CTM.
J'mets de l'argent dans le physique, comme si je veux un BBL.
Si tu me croises dans la rue,
j'suis toujours avec les mêmes.
Elle est poilue comme une beuge,
verte comme CTM.
Merci, la musique m'a donné un sens. J'rappe comme si je fredonnais un sample. J'ai toujours marché avec le même instinct. J'traîne avec des geeks ou avec des lascars. J'pose assis et icy comme l'Alaska. Souvent près de l'objectif comme un Ascam. J'envoie de la rime de bâtard, c'est pas du bas de gamme, c'est un motif de bagarre.
C'était le morceau Le bruit et le silence, donc morceau de Ness, extrait de son tout prochain album.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
But I can't think of a better time to say.
Jérémy, est-ce que t'aimes bien ce morceau?
Ouais, j'adore.
Tu sais de qui il est?
Non.
Il est de Bob Sinclair.
Ah oui, j'allais dire que c'est un remix. Ouais.
Non, non, c'est un morceau, exactement, World Alone. Et en fait, est-ce que tu sais d'où tire son nom Bob Sinclair?
Non.
Eh bien, d'un film français. Et je vais te raconter ça. Ouais, en fait, je voulais qu'on parle un petit peu de quelques comédies d'action françaises, puisque c'est, tu sors une comédie d'action avec les Cadors. Et bien, c'est un genre qui n'est pas tant investi que ça en France.
Non, c'est vrai.
Et il y en a eu. Il y en a quelques-uns. Et je pense que ça commence pour moi dans les années 70 avec Le Magnifique, qui est donc un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Donc c'est un film d'action, mais c'est un peu un film sur un film d'action, puisque Belmondo joue un écrivain timide qui s'appelle François Merlin, qui s'invente un double fantasmé, l'agent secret Bob Sinclair. Un genre de James Bond à la française, dopé à l'ego, au gadget et aux poses viriles. Et donc c'est ça qui a donné ce nom d'alter ego à Bob Sinclair. Est-ce que les films de Belmondo, l'idée c'est aussi de parler de tes éventuelles références ou influences, même si je crois comprendre que t'as été un peu plus bercé peut-être par le cinéma américain.
Ouais.
Est-ce que les films de Belmondo, t'as grandi avec ça? Est-ce que ça passait à la télé ou pas tant que ça?
Ouais, ça devait passer à la télé. Après, très sincèrement, si je prends vraiment des bribes de souvenirs que j'ai, c'est plutôt des films avec Villeray, c'est plutôt des films avec...
pas oublier ce nom.
Ah, les noms.
Non, c'est pas possible.
C'est ça.
Non, mais là, c'est pas possible.
Il joue dans quoi? Dis-moi, je vais essayer de t'aider.
C'est trop connu.
Moi, j'adore ces jeux.
Louis de Funès, putain.
Ah, Louis de Funès.
Ah, mais là, je suis fatigué.
La Soupe aux Choux.
Pouic Pouic. Enfin, tu vois, j'ai des bribes comme ça. Je sais qu'on regardait beaucoup des films humoristiques comme ça, un peu absurdes. Et après, le reste, je me rappelle de Van Damme, de Stallone. Mon père me regardait ça, tu vois. Donc, je me souviens de regarder beaucoup de comédies comme ça, des trucs avec Wesley Snipes, des films un peu comme ça, des Jurassic, et puis après des gros films, les gros blockbusters, on allait tous les voir au cinéma, les Titanic, les
oui,
tu vois,
les gros rendez-vous,
les gros rendez-vous, on y allait, ça je me souviens.
Alors, il y a un autre film pour moi. Alors, c'est intéressant, mais on en parlait un petit peu en antenne. Quand j'ai vu la première affiche, j'y ai un peu pensé. C'est un film de 2002 qui s'appelle Le Boulet.
Ouais.
Un film de moi que j'aimais beaucoup à l'époque. J'ai pas revu depuis longtemps. Un film de Alain Berberian et Frédéric Forestier avec un buddy movie. Là, vous êtes trois. C'est vraiment un trio qu'on suit dans les cadors. Là, ces deux personnes sont jouées par Gérard Lanvin et Benoît Pelvorde. Deux mecs que tout oppose. Histoire classique, hein. Forcés de se supporter. D'un côté, un caïd évadé maltaise. De l'autre, un maton régio que tout le monde surnomme Le Boulet. Et au milieu, un ticket de loto gagnant qui part dans un délire de poursuite jusqu'en Afrique. Alors, il y a quand même un fait intéressant, c'est que dans ce film, il y a une apparition de Nicolas Anelka.
Ah
ça,
bon
moi, bien sûr. Et ça, moi, ça me rendait fou quand
ça,
j'étais petit.
Pas.
Est-ce que ça, les buddy movies comme ça, parce qu'il y a une énergie comme dans ce film, tu sais, notamment entre toi et les personnages de Laura et d'Eric, d'ailleurs, les deux, tu sais, toi qui as le rôle principal, musclé, tu sais, un peu froid, versus les quelque part, tu s'appelais le boulet. On aurait pu appeler ces personnages d'un peu comme ça,
parce qu'ils
peuvent,
ouais,
ils peuvent ralentir un petit peu la trajectoire du héros principal. Est-ce que ça t'a, c'est aussi des choses que t'as pu regarder qui ont pu t'influencer?
Bien sûr, mais de toute façon, c'est des mécaniques classiques. Et de toute façon, en humour, tu n'inventes plus de mécaniques. Tu les traites différemment.
C'est plus possible d'inventer, tu penses? On a
si, de temps en temps, mais c'est pas grave en fait. Parce que en réalité, ce que je veux dire, c'est que dans l'art de manière générale, on traite quoi? On traite l'amour, la mort, le sexe, la dispute, la guerre, enfin tu vois ce que je veux dire.
Les sujets sont déjà éculés.
Les sujets sont déjà éculés. Donc après, une fois que ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est le traitement et la modernité que tu y mets qui fait que tu es un artiste dans l'ère du temps et que tu es un artiste qui est ancré dans ton époque. Mais je veux dire, le clown blanc et le clown noir, c'est classique. Le mec qui embête un mec qui est sérieux quelque chose qui peut pas avancer parce qu'il a un mec qui est pas sérieux, c'est enfin je veux dire, c'est
ah, tu parlais du dîner de con, c'est l'énergie même des films de Weber avec les François Pignon,
tout,
la chèvre,
même les bronzés, même tout est comme ça. T'as toujours un mec qui a un but et puis quelqu'un qui l'en empêche. C'est le mécanisme même du. En fait, et pourquoi c'est tout le temps comme ça? C'est parce que en fait, une comédie, ça naît d'un problème. S'il y a pas de problème, il y a pas de comédie.
Ouais,
donc t'as toujours un. Et d'ailleurs, si je vais encore dans le macro. C'est le principe même d'un film. Un film, c'est quelqu'un qui a un problème.
Il faut un élément perturbateur.
Même si c'est un film d'horreur, ils ont un problème. Tu
Bien
vois,
sûr.
Titanic, il y a un problème. Tu
un
vois
petit problème.
Tu prends n'importe quel film, il y a un problème. Je parlais de Splash d'ailleurs, il y a un problème.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que on te raconte une histoire et une histoire, c'est un problème. C'est quelque chose qui doit se passer, qui ne se passe pas.
Alors, dernier film dont je voulais parler, je ne sais pas si tu l'as vu à l'époque. Il y a même une suite. C'est Gomez et Tavares. Mais en fait, tout part d'un album qui s'appelle Gomez et Dubois.
Je te regarde et te plais, j'ai mis à mourir.
Et moi derrière la vitrine,
j'ai trop le sourire.
Les souvenirs, ouais, l'ambiance, la fraternité, tous soudés, tous bourrés.
Bienvenue à l'hôtel Commissariat. Y'a toujours.
Alors ça s'appelle Hôtel Commissariat, référence évidemment à Hôtel California. Et alors c'est assez intéressant parce qu'à la base c'est un album de rap qui s'appelle Gomez et Dubois avec deux rappeurs qui s'appellent Faf La Rage, rappeur
marseillais,
et Ben. Et donc c'est un album qui a plutôt marché et ça a donné lieu donc à ce film Gomez et Tavares qui initialement devait être réalisé par Luc Besson. Finalement ça n'a pas été le cas et donc avec effectivement Titoff et Stomy Bugsy, donc un humoriste finalement comme toi qui passait à la comédie, et Stomy Bugsy un rappeur. Est-ce que tu as des souvenirs? Il y a même eu une suite, hein, il y a eu après Gomez versus Tavares.
Là je sais pas quel âge j'avais, mais je me rappelle que à mon avis je devais avoir 15-16 ans quand c'est sorti.
Ouais,
ça,
un truc comme ça,
Ouais, j'ai des souvenirs, je suis pratiquement sûr que je l'ai vu au cinéma. J'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, mais je sais que je l'ai vu et je me rappelle de l'album. Ça c'est sûr, ça c'est des choses que j'écoutais.
C'est ça que t'écoutais quand t'étais plus petit, t'écoutais
ouais,
du rap en
j'écoutais
tout cas.
Beaucoup de rap, ouais. J'écoutais NTM, j'écoutais IAM, d'ailleurs j'écoute toujours IAM. J'ai eu la chance de les rencontrer, en plus c'est des mecs adorables. Donc oui, j'écoutais beaucoup de rap.
Bon, en tout cas, c'est quelques comédies d'action françaises, il y en a d'autres évidemment qu'on pourrait citer. Mais je voulais parler de quelques films, parce que c'est vrai que c'est un genre qui est très populaire aux États-Unis. On a énormément de comédies d'action comme ça. Et en France, un peu moins. Et même d'ailleurs, les films d'action sont un peu moins fréquents.
C'est un peu moins fréquent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le style humour, mais où on se marre vraiment,
ouais,
tu vois, un truc où on se marre vraiment et où il y a de l'aventure et de l'action, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors aussi, peut-être parce que on n'ose pas.
Peut-être.
Tu vois, on est quand même dans un univers aussi où il faut se battre un peu. Tu vois, quand moi je suis avec mon pitch, je te dis, l'argent ne me l'a pas donné tout de suite. Tu vois.
Ça sentit que c'était compliqué auprès des studios.
Non, ça a été. Là, on a Canal qui a joué le jeu, mais ça n'a pas été simple. Tu vois, pour réunir tout l'argent, avoir exactement l'argent qu'il me fallait, ça n'a pas toujours été facile.
Pardon, même quand on je suis très naïf, hein, mais quand on a un humoriste à succès qui remplit autant de salles, quand on veut se lancer dans un projet comme ça, tu sens que les portes se s'ouvrent bien pas sûr. Aussi facilement qu'on peut l'imaginer.
Bien sûr, on m'a suggéré à plusieurs reprises, bon, un financement, il y a plein de gens, hein. Moi j'ai vu tout le métier, tu vois,
ouais.
Et à plusieurs reprises, on m'a suggéré, on m'a expliqué que si je faisais un scénar un peu plus lisse, un peu plus passe-partout, on me donnerait de l'argent, tu vois, et j'ai refusé. Donc je pense aussi que, tu vois, moi j'ai la chance, c'est justement d'avoir ces 15 ans de carrière derrière moi, qui fait que peut-être, si je dis non, c'est comme ça et c'est tout,
oui.
Bah, on y va.
On t'écoute
alors
un peu
que,
plus.
Alors
oui.
Que peut-être un jeune réal qui arrive avec un film un peu zinzin, drôle, aventure, parce que ça coûte aussi un peu plus cher,
bien
tu
sûr.
Vois, même si moi j'ai été raisonnable sur mon budget, hein. J'ai fait une comédie d'aventure qui n'est pas très chère par rapport aux autres budgets des autres comédies d'aventure, je suis pratiquement deux fois moins cher, donc je me suis bien débrouillé, tu vois, et j'ai vraiment mis tout l'argent dans le film, ça par contre, il y a
ouais,
tout
ouais.
L'argent qui est dans le film. Mais puis j'ai eu de l'aide, tu vois, j'ai eu des coups de bol aussi, par exemple le Marathon des Sables, il y a une séquence au Marathon des Sables, bah, c'est le vrai Marathon des Sables, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le Marathon était là au même moment. On a écrit à Cyril Gauthier, qui est le directeur du Marathon, lui a envoyé le scénar, il a trouvé ça très drôle, et il nous a laissé filmer le Marathon des Sables, et les marathoniens ont joué le jeu. Ce qui fait que on a eu 200 marathoniens et toute l'infrastructure du Marathon des Sables gratuitement.
Mmh.
Et le départ du Marathon des Sables, c'est le vrai départ du Marathon des Sables, avec les vrais marathoniens, donc c'était extraordinaire.
Toi qui viens de la scène, quand on fait un film comme ça, est-ce que c'était obligatoire pour toi que le film sorte en salle ou est-ce que tu as imaginé les plateformes? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une possibilité. Il y a des films, tout le temps, qui sortent sur les plateformes. Est-ce que tu aurais été ouvert à l'idée ou tu voulais que le film sorte en salle?
Non, tu sais, avec le style d'humour que moi je fais aussi, moi j'ai confiance en ce que je fais et j'ai confiance au public qui va me suivre. Donc si j'avais dû à un moment donné passer par la plateforme pour montrer mon travail en tant que réalisateur, je l'aurais fait. Mais je préférais la salle et donc j'ai réussi à obtenir la salle. Donc je suis ravi que ça se passe comme ça. Mais non, si à un moment donné bah, il fallait aller sur Netflix ou sur Amazon, j'y serais allé. Parce que on est dans un monde maintenant où il y a de la concurrence partout et il faut arriver à s'imposer et tu t'imposes en montrant ton travail.
Mmh.
Moi, je me suis imposé dans l'humour. La liberté que j'ai aujourd'hui dans l'humour, c'est parce que je suis monté sur scène des milliers de fois. La liberté que j'ai en télévision, c'est parce que j'ai fait des audiences et parce que j'ai montré que je savais faire. Donc, je comprends très bien qu'au cinéma, je doive prouver puisque j'ai encore rien fait. Et donc, moi, l'important, c'était de préserver ma liberté d'expression et ma liberté artistique. À partir du moment où l'œuvre que je présente, elle est celle que je voulais, écoute, je la mets là où on peut la voir, tu vois.
Tu viens de parler de liberté, ça me semble être quand même un sujet important aujourd'hui quand on est artiste, quel qu'on soit, et peut-être encore plus quand on est sur scène, tous les soirs, parce que est-ce qu'on est vraiment libre aujourd'hui, tu sais, à une époque où tout est filmé, où tout peut être sorti du contexte, tout peut être réinterprété, est-ce que tu te sens complètement libre sur scène?
En fait, ah oui, totalement.
Ouais.
Mais à la télévision aussi, hein. Très sincèrement, je fais partie de ces gens, mais après, moi, c'est un truc que j'ai acté depuis le départ, c'est-à-dire déjà, on ne demande qu'à en rire, j'ai eu la chance, j'avais Laurent Ruquier à l'époque qui me protégeait de cela et qui se battait pour que de toute façon, on me laisse 100% de liberté d'expression, mais du moment où j'ai commencé à être en télévision, ça n'a jamais été un débat, c'est-à-dire que la première chose que je disais, j'ai travaillé sur toutes les chaînes, tous les groupes, toutes les radios, que ce soit moi ou avec mes artistes, les artistes que j'ai la chance de produire.
Ouais.
Donc je travaille avec tout le monde et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de discussion, on peut discuter, mais c'est moi qui ai le final cut. Tu peux me donner ton avis sur quelque chose, je vais d'ailleurs l'écouter, c'est pour ça que les gens travaillent avec moi, c'est parce que je ne suis pas zinzin. Tu vois. On peut croire que je suis en mode solo et tout, mais pas du tout. Si par exemple, là, demain, tu me dis un truc, imaginons que je fasse une chronique dans ton émission de radio, tu viens me dire, cette vanne, je la trouve un peu trop trash. Je dis, ah bon, pourquoi? Si tu as un argument qui me convainc, je vais me dire, ok, peut-être qu'il a raison. Donc, soit je vais retravailler la vanne pour la rendre plus drôle, soit je vais l'enlever, parce que le but, c'est de faire d'abord rire.
Mmh.
Mais si tu ne me convaincs pas, je vais dire, non, je ne suis pas convaincu, je garde cette vanne. Et la plupart du temps, je dis quand même, je ne suis pas convaincu, je garde cette vanne. C'est quand même très rare. Mais même sans parler de provoque ou quoi, parce que je ne fais pas que ça, tu vois,
ouais,
je fais de l'absurde. En fait, tu vois, dès qu'on dit ça, on a l'impression qu'on parle de vanne trash,
non,
mais pas du
je
tout.
Je parle de liberté parce que je pense que c'est un vrai sujet au sens large. Je pense, j'imagine qu'il y a aussi des jeunes artistes pour en parler avec eux, des jeunes humoristes qui se posent cette question-là de qu'est-ce qui se passe si c'est mal interprété.
Je pense qu'en fait, déjà, les gens confondent, et c'est un peu là, la conversation le prouve aussi, c'est que là, on confond la censure et la critique. Ce sont deux choses différentes.
Mmh.
On est dans un monde où on se fait critiquer quoi qu'on fasse.
Absolument.
Moi, j'ai un compte X, bon, sur lequel je vais très très peu. Je suis plutôt sur Insta et Facebook, mais bon, j'ai un compte qui est toujours là existant. Donc, de temps en temps, je poste un truc juste pour dire, tiens, je suis en avant-première là et tout. Tu postes juste tourner des avant-premières de mon film. Ah ben encore une grosse merde de comédie française. Il y a même pas une image qui est sortie. Hein. Grosse merde. Tu dis mais c'est fou. J'ai l'impression qu'il y a un bassin de piranha et que tu jettes un pied de table, hein, une côte de bœuf, ça sera la même chose. Donc on est dans un monde comme ça. On est dans un monde où maintenant il y a tout un tas de gens qui attendent comme des loups dans la forêt qu'il y ait quelque chose qui se passe pour aller déverser leur frustration et leur haine. Donc on le sait. Mais donc c'est les réseaux sociaux. On en profite sur plein d'aspects. Le côté négatif de ça, c'est que on a donné la parole à tout le monde et de manière anonyme. Donc évidemment, tu te doutes bien que si Twitter, X, c'était la représentation de ce qu'on vivait toi et moi qui sommes exposés dans la rue, la vie serait invivable.
Absolument.
Et on s'aperçoit quand même que dans la rue, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai quand même plus de gens qui me font ah putain, j'adore ce que vous faites, que gens qui me font ah ouais, ta comédie de merde. Bon, donc il faut accepter, c'est le jeu. Donc évidemment, c'est relou et c'est chiant et ça fait peur parce que à n'importe quel moment, on peut prendre une vanne. Moi après, j'ai 15 ans de carrière de télé, de machin, de trucs. Donc à n'importe quel moment, il y a un mec qui peut prendre un truc, le sortir du contexte, machin. Mais bon, ça, c'est le jeu. Après, l'avantage que j'ai, c'est comme je suis là depuis très longtemps, quand il y a quelqu'un qui sort du contexte, j'ai toujours quelqu'un de mon public qui va venir lui dire « Non, gars, là, t'es malhonnête parce qu'il a dit ça, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. » Mais ça reste... Mais en même temps, on peut pas se plaindre d'un truc duquel on profite parce que c'est aussi génial d'avoir presque 1 million d'abonnés sur Insta et de balancer une pub sur Insta. Donc on est obligé d'accepter, c'est la règle du jeu. Donc ça, c'est l'aspect critique. Après, le côté censure, on n'est pas dans une époque qui... Ça a toujours existé. Et ça, c'est un truc que je répète et que je martèle parce que, tu sais, ça me fait un peu... Tu sais, il y a aussi plein d'humoristes, ça les arrange de parler de liberté d'expression, où on va les entendre parler de liberté d'expression, alors qu'ils ne s'en servent pas. Donc, il faut en parler avec des gens qui ont vraiment des problèmes quand ils font des sketchs ou qui ont des propos qui peuvent choquer. Moi, ce que je peux, en tout cas, te dire, c'est que Renaud était censuré à la radio, sa chanson Hexagone était censurée à la radio, Coluche s'est fait virer d'RMC, Coluche s'est fait virer d'Europe 1. Donc, quand on me dit, ah, à l'époque, on pouvait dire des choses qu'on ne peut plus dire maintenant, ça me fait doucement
c'est
rigoler.
Pas complètement vrai.
Parce que si on les réanime, Renaud n'est pas encore mort, mais ça lui ferait quand même pas mal d'être réanimé. Si on parle avec ces gens, ils te diront, bah non, pardon, mon pote, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi aussi, je devais me battre. Je pense que la censure, elle existe partout, et c'est pas forcément le patron, d'ailleurs, ça peut être un directeur d'antenne, un animateur.
Ouais.
Donc, et moi, personnellement, de la censure, j'en ai vu et j'en ai entendu partout. Partout. Donc, après, c'est à l'artiste, même si c'est difficile, de dire non. D'être dans la discussion, parce que c'est normal quand tu rentres dans une émission, il faut être dans la discussion avec le mec qui fait
exactement,
l'émission. Sinon, t'es juste un malade, en fait. Si tu ne vois pas parler avec toi et que t'as un texte que tu caches dans ta poche et que tu sors, bon, t'es obligé de partager, tu travailles en communauté, c'est normal. Mais il faut se battre. Si tu commences à dire oui, alors c'est plus de la censure, c'est un accord que t'as passé, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai toujours refusé ça. Donc, on me prend comme je suis ou on ne me prend pas.
Très bien. Jérémy, je te propose qu'on écoute un morceau de A$AP Rocky, rappeur américain qui a sorti un très bon album récemment qui s'appelle Don't Beat Dumb. On s'écoute le morceau Hélicoptère et juste après, on poursuit l'émission avec Jérémy Ferrari qui sort les Cadors d'Or le 11 mars prochain.
Stunned by the hunters, gonna come in no fast. Shut it, gon' bag it, lick it, get rat pack it, ship it. Make it from rack to riches, dumb shit. Act like you don't know, run shit. On the front porch and the function, I check in my sneakers, no checks on my sneakers. Just Puma got beat, you're the goody grill. Pull up to the church in my hoodie then. I'm about to get money, but shitty then. I ride around in the old pink Mercedes, the pussy whip like Killer Ken. My braids looking like I could be Jim. They looking around like that could be them. Lot of options around and you could be them. If we talking about pockets, you know my fat. We talking your chances, they could be thin. On the line, another dollar, let me in. Who get more pussy than a lesbian? Hanging from the helicopter, Spider-Man. Came a white T.O. spinning like a helicopter. Came a white B.O. spinning like a helicopter. Fuck with young pretty block or pretty pop you.
Yeah.
Fucking with that pretty block, yeah. Might pretty pop you. Came a white T.O. spinning like a helicopter. Came a white B.O. spinning like a helicopter. Fuck with young pretty block or pretty pop you.
Yeah.
Fucking with that pretty block,
yeah.
Might pretty pop you.
Used to be niggas do anything for a new check.
Nowadays, these days, niggas do anything for a blue check. Check when tennis shoes had the check or three stripes on the side. Way before Puma cut the check. Yeah, three strikes, that's your life. Niggas running out of sweat. Niggas running out of breath. Niggas running out of time. Yeah, niggas running into debt. Word to everything, I've been in it. In the internet, niggas set the trend, now the trend is set. Then they run and do it, and then forget who did it best.
Take my white T.O., spin it like a helicopter.
Niggas know.
Take my white T.O., spin it like a helicopter. Like a helicopter. Bump up with young pretty flock, or pity pop. Pity pop. You be fucking with pretty flock, go I pity pop. Get grip. Take my white T.O., spin it like a helicopter. My white T.O. spin it like a helicopter. Fuck with young pretty flock or pity pop you. Fucking with that pretty flock or my pity pop you. Grip. Take my white T.O. spin it like a helicopter. Take my white T.O. spin it like a helicopter. Fuck with young pretty flock or pity pop you. Fucking with that pretty flock or my pity pop you. Grip.
C'était le morceau Hélicoptère d'Ace Aborki présent sur son dernier album Don't Be Dumb.
Mehdi Maizi sur France Inter.
On est avec Jérémy Ferrari, donc, qui sort Les Cadors pardon, le 11 mars prochain. Tu le réalises et tu joues dedans. Et puis, il y a, j'étais un peu, on l'a dit, mais il y a aussi quelque chose qui a été couronné de succès, c'est la tournée, hein, en trio, avec Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère. Je pose toujours une question. Moi, parfois, c'est une question que je pose, tu sais, quand des musiciens travaillent ensemble. Mais comment on écrit à trois? Est-ce que vous êtes chacun en vase clos? Est-ce que tout se fait de manière collective? Comment ça se passe l'écriture?
C'est tout en collectif.
Ok.
On ne met pas une vanne dans le spectacle si les trois n'ont pas ri à la vanne. Donc c'est vraiment tout en collectif. Après, Arnaud, Baptiste et moi, on a eu un truc assez incroyable. Quand il y a des années, quand on s'est rencontrés, on avait un producteur qui était commun et qui nous a dit bah, « peut-être vous pourriez essayer de faire des zéniths ensemble ». On était tous au début de notre carrière et donc on devait faire chacun une heure de spectacle et puis on s'est retrouvés dans un train en se disant « quand même, c'est un peu nul de faire une heure chacun et de rien faire à trois ». Donc on s'est dit bah, « tiens, on pourrait peut-être écrire des petites conneries qu'on ferait entre les sketchs, mais de manière totalement naïve, quoi, sans réfléchir à la mise en scène et tout, juste en disant bah, « écrivons des petits trucs à trois ». Et tout à coup, en fait, mais c'est une chance incroyable. C'est-à-dire que moi, j'écris des duos et des trios depuis 10 ans pour mon émission. Et des fois, c'est pas aussi naturel que ça. Ça veut pas dire que ça va pas être bien, mais des fois, faut forcer un peu l'univers pour que ça rentre, quoi. Mmh. Et là, il y a une espèce de magie qui s'opère. Donc, il y a 15 ans maintenant, on se rend bien compte qu'en fait, dès qu'on écrit tous les trois, il y a un truc, en fait, les trois univers, en fait, se marient et se mélangent très bien. Donc, on n'a jamais changé notre méthodologie de travail. On a commencé à faire des sketchs ensemble dans les duos impossibles. C'est ça qui a généré, je pense, le succès du trio derrière. C'est que les gens aimaient beaucoup nos sketchs là-bas. Et pour écrire le trio, on a refait comme d'habitude. On s'est mis dans un salon et on s'est mis à rire ensemble, quoi. Et dès qu'un truc nous fait éclater tous les trois, on le note.
Jérémy, c'est l'heure de la question qui tue.
Ah.
Alors, j'ai peur que tu aies déjà un peu répondu pendant cette émission, mais c'est pas grave, je te la pose quand même. Pour toi, quelle est la meilleure comédie française de tous les temps?
Ah, c'est le Père Noël, tu l'as rendu.
Ouais, voilà. Et, tu m'as un peu tué ma question.
Un peu ex-aequo avec le Dîner de cons, parce que quand même, le Dîner de cons, les dialogues sont extra. En fait, j'aime l'univers du Père Noël est une ordure, j'aime le côté social du Père Noël est une ordure, et je suis amoureux des dialogues du Dîner de cons. Donc, c'est je... Et d'ailleurs, dans les Cadors, tu vois, je me suis autorisé des moments très... très Père Noël est une ordure avec que des fous dans la même pièce qui racontent n'importe quoi.
Ouais.
Et puis des moments très posés où il n'y a que le dialogue qui compte. Tu vois, des moments. Quand j'ai commencé à travailler avec mon équipe technique, ils m'ont dit c'est rare d'avoir des scènes de dialogue aussi longues dans un film actuellement. Mmh. Et moi, je me suis autorisé des. Tu vois, la scène notamment. Tu as vu le film, donc je peux en parler, mais la scène notamment où il y a la première rencontre entre Noé, Zulika et Ryan, c'est une scène qui dure très longtemps. Tu vois, elle est très longue dans le temps. Alors, on a l'impression qu'elle est coupée en deux ou en trois, mais en réalité, c'est la même scène et elle est très longue. Donc, moi, j'aime aussi bien le dialogue, quoi. J'ai du mal à faire un choix, en fait, dans ce film.
Quand les gens te disent les dialogues sont longs pour les films de maintenant, certains l'impression que les films ont changé, que les choses doivent aller plus vite. En tout cas, c'est ce qu'on t'a fait ressentir quand t'as préparé le film, quand t'as tourné le film avec eux.
Bah, donc, on m'a fait ressentir... non, en fait, c'est juste que tout le monde était très étonné pour une comédie de prendre le temps de poser des dialogues. Alors que je pense que si t'as confiance en tes dialogues, c'est, ça marche en fait. Il faut juste écrire des bons dialogues. Mais on a souvent, je pense qu'on a un peu peur de la qualité des dialogues et du coup, on suggère souvent aux gens d'être dans le visuel et dans l'action. Mais je pense que tu ne dois pas faire de choix. Tu vois, là, pour le coup, dans les Cador, tu as des scènes qui sont extrêmement dialoguées, tu as des scènes qui sont complètement de l'action, tu as des trucs très américains où tu vas avoir de la bagarre pendant qu'on fait des vannes. Tu vois, j'ai pas voulu faire de choix dans les univers, quoi.
Très bien. Jérémy, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, rappelle donc que Les Cadors, c'est ton premier film en tant que réalisateur. Ça sort le 11 mars avec Éric Judor, avec Laura Felpin, avec Fred Testo, avec plein de personnes. Et tu joues dedans, si tu joues pas ça,
je joue.
Voilà, donc ça, c'est le 11 mars dans les salles. Merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Guillaume Roux et Rémi Fiftiaga. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, émission spéciale Metallica pour les 40 ans de l'album Master of Puppets. T'écouter Metallica ou pas trop, Jérémy?
Ouais, j'adore.
Bah voilà, bah écoute, tu pourras nous écouter demain. Voilà, demain spécial Metallica.